19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Mais surtout avec Fabrice Lucchini. Bonsoir Fabrice, bonsoir chers auditeurs et auditrices. C'est un honneur de vous recevoir Fabrice. J'ai passé un moment somptueux, unique, rare, hier soir, au théâtre, petit théâtre de la Porte Saint-Martin, où vous lisez Victor Hugo. C'est plus austère que d'habitude. Et vous m'avez dit que vous vouliez être janséniste avec ce spectacle.
Oui, je trouve que c'était bien d'alterner ce La Fontaine et le confinement qui est devenu vraiment un endroit où, quand on voit le programme de Pascal à Molière à Jules Romain et qu'on voit les gens rire à ce point-là, c'est que j'ai dû tricoter un mélange de... Allez, on va dire la phrase, puisque Vincent Trémollet me dit de la dire, une sorte de music hall, ou métaphysique, pour citer De Vos, puisqu'il l'a écrit. Je n'ai pas cette prétention de définir mon travail comme ça, mais il y a une amplitude, il y a 800 personnes, on passe de Pascal, on passe de La Fontaine à Johnny Hallyday, de Johnny Hallyday à Olivier Véran, Madame Anne Hidalgo à Madame de Staël, t'imagines la dégringolade. Et oui, de tous les maris que je n'aime pas, c'est encore mon mari que je préfère. Ça, c'est une des phrases que j'aime beaucoup, et la plus belle, c'est en parlant de tous les gens qu'elle rencontrait qui n'étaient pas très brillants en intellectualité, ou même pas en intellectualité, en conversation.
Sauf Benjamin Constant, quand même.
Exactement. Mmh. Elle avait dit « la parole n'était pas son langage ».
Oui. Alors, mais vous parlez beaucoup de La Fontaine, moi je vous parle de Victor Hugo. Et c'est un choix, c'est vrai, assez
plus austère. Show, voilà, je me suis dit, là, il va falloir revenir à cette ambition de dire de la poésie. Alors, dire de la poésie, c'est toujours périlleux. Oui. Et parce que c'est ce qu'il y a de plus dur. Et Hugo est un très bon. On pourrait, si on voulait avoir le supercote intellectuel, faire une soirée Mallarmé. Mais alors là, Mallarmé, c'est pas pour moi. Je n'y arrive pas. Puis je peux pas m'empêcher de citer Jules Renard. Mallarmé est intraduisible, même en français. mais Mallarmé doit être génial. Mais Hugo est complètement proche. Donc un spectacle beaucoup plus austère, où nous ne sommes pas condamnés à faire rire.
Oui, voilà. Mais on rit quand même énormément, notamment quand vous lisez les séances de spiritisme du livre des tables. Oui. Alors là, franchement, là, le public est avec vous. Non, vous savez alterner toujours l'émotion et l'humour, oui, dans tout ce que vous faites.
Sans me moquer de cette passion qu'a eu Victor Hugo pendant 3 ans, car il faut le dire, il a fait les tables, il était très opposé quand Delphine de Gérardin lui a dit « Venez, on va faire du spiritisme ». Ils sont à Jersey, où il restera 3 ans. Et évidemment, la première personne qui a été convoquée, c'est évidemment Léopoldine. Ouais. Ça, il ne le dit pas dans le livre, c'est pour ça que je ne le cite pas. Ouais. Et je cite ces soirées délirantes où il y a, vous en avez repéré quelques-uns,
oui, il y a Voltaire, il y a Jésus, il y a Mahomet, oui, il converse avec Molière,
Shakespeare.
Oui, non, il parlait pas avec la girl next door, hein, c'était toujours des personnalités importantes.
Absolument.
J'ai eu la chance d'être invité, mais je croyais qu'on n'était jamais, qu'il y avait aucun invité dans vos spectacles, que tout le monde était payant, et vous avez fait une exception pour moi. J'ai ici mon petit billet, voilà, invitation au théâtre du Petit Saint-Martin. Donc je vous remercie d'avoir fait l'exception. J'ai lu dans le dernier livre de Jean-Marie Perrier quelque chose sur vous. C'est très gentil, hein, je vous rassure. Et il dit, voilà, il a la réputation de ne jamais offrir de place. Mais il a raison, les gens qui ne paient pas leur place sont dangereux. C'est une...
Mais c'est comme la psychanalyse. Vous ne rencontrerez pas un analyste sérieux qui dit au patient, eh ben bonne journée, non, c'est rien. Si tu mets pas... si tu ne manifestes pas concrètement le désir d'être là, c'est que tu n'as pas un bon désir. Et je vous passe les détails de l'horreur des invités. Allô, oui, mais c'est où le théâtre?
C'est à quelle heure?
C'est à quelle heure? Ben, ouvre le journal. C'est bizarre parce qu'il y a 700 personnes qui savent où c'est. Je passe... il n'y a pas d'invitation pour une raison, oui.
Non, mais vous avez raison, je pense que c'est tout à fait exact. D'ailleurs, les invités sont les plus sévères.
Oui.
C'est ceux qui vous jugent le plus, je pense.
Ils sont souvent remplis de ressentiments.
Voilà. Alors, en plus donc de Victor Hugo, il y a La Fontaine, on l'a dit, au Théâtre Montparnasse, qui continue. Et en fait, tout est plein jusqu'en mars, donc je ne sais pas à quoi sert cette émission.
Ah si, parce que...
Uniquement au plaisir.
Non, je vais prolonger janvier. Je vais prolonger, exactement, mais je vais prolonger au Théâtre Montparnasse une fois par semaine La Fontaine, et puis je jouerai au Théâtre des Maturins jusqu'à fin mars où je commence un tournage, et puis après j'irai dans un autre théâtre normalement. Non mais on ne fait pas de la promo.
Non.
C'est effrayant
mais
la
non,
promo.
Non, ça ne sert à rien. C'est le plaisir de parler d'Hugo aujourd'hui, parce que Hugo, il y a Les Misérables, Notre-Dame de Paris et tout, mais en fait, la poésie d'Hugo, elle est peut-être un tout petit peu oubliée, et toute cette lecture, elle conduit à Beaux Endormis, c'est-à-dire que vous avez construit, à partir de la mort de Léopoldine à 19 ans, et le célèbre Demain dès l'aube, ensuite vous construisez tout le spectacle pour nous amener à un moment de grâce, qui est ce poème, Beaux Endormis, qui est considéré par Marcel Proust et Charles Péguy comme le chef-d'œuvre de Hugo.
Et Pierre Michon, votre collègue.
Pierre Michon, bien sûr.
L'immense Pierre Michon.
Oui, oui.
Il y a des gens pour qui c'est un événement plus que majeur et l'introduction à Beaux, c'est Péguy qui l'écrit de manière hallucinante.
Mais...
Et c'est par ce hasard d'avoir rencontré chez un libraire qui s'appelle Guillaume Brun à l'écume des pages, un jour de déprime, descendant de Montmartre, où je n'allais pas bien, je rentre dans cette librairie, je lui dis que j'arrive plus à lire de romans, qu'est-ce que vous avez à me conseiller? Il me sort le livre de Péguy. Et je lui dis, vous êtes sûr? Et là, ça a été le miracle de mes deux dernières années, parce que là, on voit que cet homme, qui est un génie, Deleuze disait, il est génial et fou, mais la langue de Péguy est absolument démente pour un acteur, parce que c'est la plus grande oralité qui existe.
Et il parle très très bien. C'est un livre entièrement consacré quasiment à ce poème. Alors, votre premier choix musical, Fabrice Lucchini, c'est Jean-Sébastien Bach. La cantate, le choral du Veilleur par le chœur Monteverdi et les English Baroque Soloists dirigés par Sir John Eliot Gardiner.
Das Herz tut ihm Aufruhr.
Je suis toujours avec Fabrice Lucchini, nous sommes sur Radio Classique. Fabrice, vous avez inventé un peu ce genre de la lecture accompagnée de commentaires à la fois érudits et simples. Vous êtes aujourd'hui considéré comme le plus grand passeur de littérature en France. Vous avez un peu lancé ce principe, non ? Ce principe qui a été repris par des confrères à vous.
C'est en 85 que j'ai fait la première adaptation de Céline, Le Voyage au bout de la nuit. Oui. Et puis j'en ai fait une deuxième, L'arrivée à New York.
J'avais vu à l'époque.
Vraiment un hasard, c'est Jean-Louis Barrault qui m'a demandé, j'étais plutôt hostile, pourquoi mettre une voix sur une musique aussi sublime que Le Voyage.
Mais cette invention-là, cette idée-là de mélanger à la fois le respect du texte, la transmission, et en même temps, un peu comme un prof qui dit des anecdotes.
Je serais bien incapable de vous dire pourquoi c'est devenu une. J'ai repéré que je commençais souvent les premiers Céline avec une totale obéissance au texte. Puis la deuxième partie, je revenais à ce qui m'avait bouleversé. Et j'ai découvert qu'à la répétition, un mot qui n'avait pas été écouté ou entendu par le public, je me souviens, par exemple, il y a une phrase dans Le Voyage au bout de la nuit. J'adore les écrivains qui disent que c'est moyen. J'adore ça. Je vais pas dire leur nom parce qu'on est obligé. On lit leurs livres après. Alors, ils sont très bons. Hein. Mais il faut être balèze pour dire du mal du voyage. Hein. Faut être aussi fort qu'Emmanuel Berre, Lévi-Strauss et comment il s'appelle, Bernanos. Mais à un moment, il est en Amérique et il va très mal. Il erre dans les rues. Il dort. Il n'arrive pas à dormir. Il ressort et puis il finit par dire c'est l'âge aussi qui vient peut-être le traître et nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie, voilà. Toute la jeunesse est allée mourir, déjà au bout du monde, dans le silence de vérité. Et où aller dehors, je vous le demande, quand on n'a plus en soi la somme suffisante de délire. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Et quand je revenais à... Il a dit... La plus belle définition de la dépression nerveuse, personne, même Freud, l'a pas fait, quand il écrit cette phrase extraordinaire, hein, quand on n'a plus assez de musique en soi pour faire danser la vie. Un mec en fait des 10 par page comme ça, faut bien baisser sûr. D'un ton, à mon
bien
avis.
Sûr, bien sûr. Mais alors, vous dites chercher la neutralité pour mieux transmettre le texte. Mais le public, il veut vos commentaires, il veut vos délires, il veut vos pétages de plomb, il vient vous voir vous.
C'est pour ça que je fais Hugo. Parce que Hugo, il y a quand même une
Il y a quand même un peu de digression.
Digression, mais autour d'Hugo.
Hier soir, au théâtre de Petit Saint-Martin, il y avait un type qui toussait un peu trop fort. Il s'en est pris plein la gueule.
J'arrive pas à mesurer mon... J'essaye de faire une voix basse. Et j'ai une thèse. Alors, vous la connaissez en 2 minutes, je vous la connaissez, ma thèse sur la toux. Je le referai plus. Là, j'ai eu un petit moment de colère parce que quand tu dis sur la mort de Léopoldine, de fois j'ai dit silence, elle a parlé. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient. Laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison, sans doute, et que pendant ces 4 verres, quelqu'un crache. De manière sonore, je lui dis ne viens pas me voir. Il y a deux sortes de toux. Il y a la toux respectueuse pour les autres et pour moi. Mais je vais vous dire maintenant, en 2 minutes, la thèse de la toux. Elle est scientifique, mais maintenant je vais être plus gentil qu'hier soir. Hier soir, j'étais peut-être un peu sévère.
Ça a eu un effet. Hein. Les gens ont arrêté de tousser.
Voilà. Ma thèse sur la toux. Ça n'est pas vrai que c'est un problème uniquement. Évidemment qu'on a tous des problèmes de nez en ce moment. Mais il y a quelques années, je faisais un spectacle avec Peggy, Rimbaud, Freud, etc. D'accord. Il y avait 1000 personnes qui étaient là. C'était au grand théâtre de la Porte Saint-Martin. Et là, je me faisais du Rimbaud, le bateau, et ça toussait. Je me faisais du Peggy, ça toussait. Et bizarrement, au bout d'une heure et quart, j'arrêtais pour parler des subprimes de 2008 et de mon angoisse en me caricaturant d'être, de devenir
devenir un an inquiet de ses économies. Je racontais que je courais de banque en banque.
Ma cassette.
Et je parlais et je disais à un moment, il est peut-être légitime de vous demander de combien était mon assurance vie en fonds euros.
Et là, personne ne toussait.
Et pendant 13 minutes, je les tenais. Je faisais des allers-retours. Je sais que dans un monde immonde, dans une injustice de plus en plus grande, et j'entendais plus un bruit. Ça veut dire qu'ils toussent pour une raison très simple. Quand il y a un, ils toussent pour des raisons concrètes. On a tous des toux. Mais l'affirmation de la toux est comme un dérangement que produit le texte. Alors, s'ils veulent pas y aller, qu'ils n'y aillent pas.
Mais non, mais peut-être que tout simplement le monsieur était ému.
Non, il est pas ému.
Parce qu'on parle de la mort d'un enfant.
Non, mais il rejette. Il rejette l'idée de la mort de sa gosse.
Ah oui, voilà.
Oui, oui, mais moi, il empêche le voisin d'entendre. Oui, vous savez, il y a beaucoup de musiciens qui arrêtent de jouer.
Oui, c'est vrai.
Moi, je me prends pas pour Glenn Gould.
On est sur Radio Classique et
il y a des dizaines de musiciens s'arrêtent de jouer.
Oui.
Non, alors, mais je veux pas. Je serai plus gentil ce soir.
Alors, Fabrice Lucchini, vous, c'est censé être une lecture. Or, vous savez tout par cœur. J'ai bien vérifié. Vous avez regardé peut-être 3 ou 4 fois votre cahier là, mais en fait, vous savez
et
déjà
vous savez
tout par cœur.
Pourquoi je la regarde le cahier? Pour m'empêcher d'incarner. La lecture enlève de la personnalité au comédien. Il y a trop de personnalité sur le texte. Il faut enlever toutes ces intentions qui sont une entrave. Alors, votre question.
Ma question, c'est une citation de vous. Dans Comédie française en 2016, votre livre, vous disiez « La poésie, c'est une rumination. C'est une exigence 10 fois plus difficile qu'un texte de théâtre. La poésie demande une vulnérabilité, une capacité d'être fécondée. » Est-ce que Victor Hugo vous féconde tous les soirs sur scène?
Oui, et c'est peut-être ça l'irritation sur la toux, d'ailleurs. Parce que sur mon autre spectacle, c'est un tel show où j'y vais que personne m'embête. Et d'ailleurs, je mets en scène la toux et tout le monde est mort de rire. Là, il y a un côté religieux. Alors oui, on doit être fécondé. Et quand vous entendez ce que je vous ai dit, vous imaginez, je fus comme fou dans le premier moment, hélas. Et je pleurais 3 jours amèrement. Vous tous à qui Dieu prie votre chère espérance, père, mère, dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé? Je voulais me briser le front sur le pavé. Puis je me révoltais et par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible et je n'y croyais pas et je m'écriais « Non, est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom qui font que dans le cœur le désespoir se lève ?» Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre à côté. Que c'était... Oh, que de fois j'ai dit silence à la parler. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient. Laissez-moi que j'écoute. Car elle est quelque part dans la maison, sans doute, à contrôler aussi l'émotion. Hein.
Mais oui, mais
mon métier est pas du tout de mettre des sentiments personnels pour faire croire que je suis Hugo. Je n'ai pas perdu ma fille.
Vous êtes perdu
oui,
ma fille.
Oui, mais ça n'est pas par le travail stanislavskien qu'on essaye de dire des poèmes. Stanislavski t'aide pas. Il n'y a que Jouvet qui t'aide. Il n'y a qu'un homme dans l'histoire de la France qui t'aide, c'est Louis Jouvet. D'abord, c'est un écrivain de génie, parce que Comédien désincarné est une œuvre absolument extraordinaire qui a été rééditée par Flammarion.
Oui. Il dit qu'un acteur est un corridor.
Oui.
Est-ce que vous êtes un corridor?
En tout cas, dans l'expérience sur Hugo, faut disparaître. Il n'y a pas d'autre solution. Tu ne peux pas venir témoigner de toi-même ou faire avec des sanglots. Oh, que de fois j'ai dit silence à la parler. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé.
À un moment, j'ai cru que vous aviez un peu pleuré hier soir.
Oui, j'ai pas contrôlé. Je pleure souvent, mais il faut que je m'interdise de pleurer parce que
les gens,
comme dirait Jouvet, n'a aucun intérêt. C'est eux qui doivent pleurer,
oui,
pas moi.
Oui, oui.
C'est un drôle de métier, c'est comme l'amour. T'es pas là à t'occuper de ta jouissance. Faut que la personne en face de toi, et ça vous est arrivé, vous avez eu suffisamment de problèmes de ce côté-là, avec BD, espèce d'errance baudelairienne, de séducteur.
très, très, très inverti sur lui-même.
Ah bon, il faut donner du plaisir à l'autre? Je savais pas, j'étais pas au courant.
Ben voilà, donc c'est pas ton plaisir qui compte au théâtre, c'est le leur.
Alors, les lectures. Donc, il y a eu Céline, effectivement, en 86, ah oui, le voyage. Ans, oui. Et puis, ensuite Flaubert, Un cœur simple.
Oh, puis, 96.
Bah, j'ai toute la liste.
Oui. Oh là 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 là.
Mais quel est le critère, finalement, pour choisir? Tiens, je vais faire La Fontaine, tiens, je vais faire Rimbaud, ou cette fois-ci, Hugo. Est-ce que c'est le hasard?
C'est mystérieux. C'est mystérieux. On peut pas vous répondre. C'est trop compliqué. C'est des tiens, on va parler comme Baudelaire à un tout petit niveau. C'est des correspondances. Tout d'un coup, oui. Boum, tiens, le libraire qui me donne un Peggy, le Peggy qui parle de Bose, mon obsession. Est-ce qu'on peut dire Bose en 2023? Oui. C'est très compliqué.
Il y a pas eu beaucoup de contemporains à part Philippe Muret.
Ah oui, bah oui, mais dis donc, j'ai pas n'importe lequel.
Ah non, c'est pas n'importe lequel. Non. Et puis il y avait un peu de Philippe Lançon et de Jean Co dans un spectacle.
Ah bah c'est pas n'importe lequel.
Non, pas du tout.
Jean Co, ah, oui. Le plus grand portraitiste du XXe siècle, et Philippe Lançon, une pure merveille.
Et puis vous avez dit en disque audio les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes,
qui n'était pas non plus.
Mais est-ce qu'il avait fait l'objet d'un spectacle ou je suis
amnésique? J'ai fait le point sur Robert, où je parlais de l'état amoureux.
Ouais. Et alors, question un peu stupide, mais pourquoi pas Guitry, par exemple?
Ah, il est présent dans La Fontaine, il prend au moins 10 minutes.
Ah bon, ouais, d'accord, ouais. Ok.
Oui, bah, tu sais, Cocteau, Guitry et Jules Renard, ils sont impossibles à pas être dans les spectacles où on rit plus qu'au Hugo.
Ah, ouais,
mais on ne peut pas se passer de la phrase de Jules Renard, je ne sais pas si j'ai du goût, mais j'ai le dégoût très sûr.
Et pourquoi pas Marcel Proust un jour?
Ah, voilà. Ah. Ben, je pense qu'il n'est pas oral, moi.
Ouais.
Mais je me trompe peut-être.
Non, je sais. C'est vrai que c'est complexe. C'est complexe parce qu'il faut arriver à trouver les espaces.
Ceux qui ont été, bon, je n'ai pas. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a le plus efficace, évidemment. Alors Céline est très très orale, mais faut pas l'oraliser. Faut pas le jouer. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. C'est Arthur Gannat, un carabin. Non, ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. C'est Arthur Gannat, un carabin, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Bon, etc.
Tiens, on a une question de Louis-Ferdinand Céline, d'ailleurs, qui est en ligne.
Des écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Alors, des histoires, il y en a plein à la rue, n'est-ce pas? J'en vois partout, des histoires. Hein. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire, n'est-ce pas? Et mille histoires.
Il y a une élocution. Il est, en fait, pas du tout parisienne. Non, pas du tout.
Non, je suis une femme du monde.
La délicatesse totale.
La différence entre eux et moi, on lui posait la question, c'est que je travaille. C'est un très gros travail, vous comprenez. Faut mettre sa peau sur la table. Voilà. Et les autres se racontent des histoires. Non, c'est du Paul Bourget, vous comprenez. C'est du Paul Bourget. Non, mais moi, c'est la mort qui inspire, vous comprenez. C'est quand la mort est en colère. Oh là là.
Non, mais c'est vrai que quand il défend le style, évidemment, c'est vrai que ça...
Et ses écrivains préférés étant La Fontaine, François Villon, Rabelais, un peu Paul Morand, puis après le reste, ça l'intéressait pas, sauf Proust, puisqu'il l'a adoré à un moment. Oh, il était très doué. Ah oui, oui, même si c'est un peu long, autant de pages pour savoir qui va enculer l'autre. Mais si ta tuteur va enculer ta taf. Mais il a dit aussi cette chose de génie dans Le Voyage. Il dit Proust, mi revenant lui-même, s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans les rites et démarches des gens du monde, gens du vide, fantômes de désir, partout zarindés, si, attendant leur vato, toujours, chercheurs sans entrain d'improbables citaires. Quand on dit que c'est de la merde, Le Voyage...
Non, personne dit ça.
Ah, il y en a quelques-uns, je vais pas vous dire.
Oui, non, mais c'est une... Ils se discréditent.
C'est comme les gens disent. Ben, moi, j'aime pas Mozart. Ben, c'est pas grave.
C'est pas grave, on s'en fout.
On s'en fout.
Alors, à propos, justement, mais encore Jean-Sébastien Bach, deuxième choix de Fabrice Luchini, c'est la Partita pour clavier numéro 2, avec Muret Peraya au piano.
Très bon, Muret.
Ah, Muret est excellent. Fabrice Lucchini est en extase.
C'est la phrase de Cioran, hein. La vie serait possible dans un égout avec Bach. À quel point Dieu doit tout à Bach? Sans Bach, Dieu serait une personne de seconde zone.
Merci.
C'est Cioran, hein.
Oui, merci.
Quelle
pour ce
merveille.
Choix. Merci, très
il
bon
a,
choix.
Il a une... Je vais pas faire le cuisse parce que j'y connais rien. Moi, je viens d'une famille modèle d'émigrés, donc je vais pas faire le bourgeois qui... Il a une très bonne frappe. Non, mais il y a... c'est, vous voyez, Glenn Gould... Muret Paraya, ben c'est, t'as vu la limpidité, l'affirmation et la limpidité.
Oui.
On apprend tout des musiciens. Un acteur ne sera jamais qu'un petit personnage à côté. Un musicien sera toujours supérieur au comédien.
Vous êtes un musicien des mots, mon cher.
Oui.
Et on pourra en reparler juste après ces quelques messages.
Ce soir, à 20h, l'Orchestre National de Lille célèbre Beethoven et Sibelius. Sous la direction d'Alexandre Bloch, l'orchestre et Marie-Ange Gucci interprètent le poétique concerto pour piano numéro 4 de Beethoven. Puis, le chef propose l'une des partitions les plus populaires de Sibelius, la symphonie numéro 5. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
Nebout et Âme, l'adresse des plus beaux pianos à Paris, vous invite à vivre une expérience unique. Venez essayer deux marques d'exception, les pianos Steingraber et les pianos Bösendorfer. Des chefs-d'œuvre sortis des manufactures artisanales les plus exigeantes. Piano droit ou piano à queue, venez découvrir l'émotion unique de sonorités exceptionnelles. Steingraber et Bösendorfer, une exclusivité Nebout et Âme, Paris. Rendez-vous sur nebout-âme.com. Nebout et Âme, la passion des beaux pianos.
Bonjour, c'est Alain Duhaut. De l'Écosse à la Norvège, en passant par les Shetland, je vous invite à passer une semaine avec Radio Classique sur un yacht ponant au design raffiné avec le fameux groupe Sirba Octet, des musiciens qui mènent une double vie, classique et Tzigane ou Klezmer. De Mozart et Beethoven au swing d'Europe centrale, ce sera une rencontre unique.
Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
C'est une métamorphose. Le musée des Beaux-Arts de Draguignan rouvre ses portes dans quelques jours. Une demeure seigneuriale du 18e où les œuvres habitent les murs. Venez admirer les créations de Philippe de Champaigne, Charles Camoin, Renoir, Camille Claudel ou Rodin. Et du jeudi 16 au dimanche 19 novembre, vous êtes invités à 4 jours de festivités gratuites. Concerts, projections, ateliers et visites guidées. Rendez-vous dès le 16 novembre au musée des Beaux-Arts de Draguignan et sur mba-draguignan.fr.
Retrouvez Gaston Lagaffe dans « M'enfin », le nouveau hors-série du Parisien. Sélection de ses meilleurs gags, archives, croquis méconnus, planches complètes. Redécouvrez l'univers de Franquin, dessinateur visionnaire et maître incontesté de l'humour. Vie au travail, écologie, invention, slow life. Et si Gaston n'avait jamais été aussi actuel? Une édition collector du Parisien chez votre marchand de journaux.
La scène musicale présente en création mondiale Audrey Tautou dans Charlotte, d'après le roman de David Funkinous et l'œuvre de Charlotte Salomon. Un spectacle littéraire, musical et pictural avec la projection d'œuvres de Charlotte Salomon et Gail Anderson à la création musicale. Charlotte, mise en scène par Jérémy Lippmann, à partir du 19 janvier. Réservation sur lascenemusicale.com.
Jeanne, donatrice du fonds de dotation du Louvre.
Ma passion, c'est l'art et l'histoire. Alors, j'ai eu envie de transmettre mon patrimoine à une cause utile qui me tienne à cœur, une institution fiable et solide. J'ai décidé de faire un legs au fonds de dotation du Louvre pour que les générations futures aient accès à ce musée qui compte tant pour moi.
Pour en savoir plus sur les legs au fonds de dotation du Louvre et les assurances vie, contactez-nous au 01 40 20 84 84 ou écrivez-nous à legs@louvre.fr.
Jusqu'à 20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Bébédé sur Radio Classique.
Nous sommes toujours en conversation chez La Pérouse avec Fabrice Lucchini sur Radio Classique jusqu'à 20h. C'est samedi soir et vive la République et vive la France. Alors, la question que je voulais vous poser à présent, Fabrice, c'est que finalement, en devenant une sorte de professeur, acteur, transmetteur de littérature française depuis maintenant une trentaine d'années, avec un succès immense, ah, 40, il me fait signe, c'est encore plus d'efforts que ce que je pensais. Et est-ce que ça n'est pas une revanche, justement, sur l'adolescent qui a quitté l'école à 14 ans et qui est devenu maintenant le professeur préféré des Français?
Bah écoutez, en tout cas, d'abord c'est une très bonne piste qui monte un bec BD à intuition psychanalytique de bonne qualité. Et c'est une piste à creuser. Parce c'est que vous très avez... étrange, étant coiffeur, étant apprenti coiffeur à 13 ans et demi et ayant été viré de l'école. Ouais, c'est le miracle d'avoir rencontré Jean-Laurent Cochet, c'est-à-dire un professeur qui a fait de ma vie ce que Jouvet appelle un petit miracle, c'est-à-dire une vocation.
Parce que, bon, vous êtes un autodidacte qui a écrit un livre, Comédie française. Qui
150 000 exemplaires.
Mais oui, qui avait eu un prix littéraire. Ah,
pour un écrivain, c'est pas de la merde.
C'est pas du tout de la merde. Et cependant,
j'en revenais pas quand ils m'ont dit 150 000. Je dis c'est beaucoup. Bah, c'est énorme.
Oui, bien sûr, bien sûr. On va en parler un peu plus tard. Mais c'est vrai que vous avez refusé de vous présenter à l'Académie, alors qu'à l'Académie française, ils étaient prêts à vous accueillir tout de suite.
Oui, mais il y aurait dû à draguer. Alors là, moi, j'ai déjà du mal à draguer le public. Ah, vous savez, faut draguer les patrons. Faut draguer, mais c'est, faut draguer les messieurs qui vont voter pour toi.
Mais
ou
ils
pas.
Étaient déjà, ils étaient
oh,
déjà.
Oh, pas
d'accord.
Du tout. Oh, non, ah bon non, 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 non. Ah, bah, j'en avais un qui était Jean d'Ormesson, qui était vraiment adorable. J'avais Marc Fumaroli. Je devais avoir, je sais pas, peut-être Alain Finkielkraut, mais enfin, les deux sont plus là.
Giscard votait pour
Giscard, bah, oui. C'est lui le moteur.
Bah oui.
C'est le moteur.
Mais moi, à mon avis, vous irez à l'Académie un jour.
Bah,
parce que
ouais.
Vous faites tellement pour donner envie de lire. Vraiment, vous faites.
Ça serait la première fois qu'il y a un comédien, en gros.
Mais ce serait formidable. Bon, alors, représentez-vous. Je voulais parler de ce qu'on appelle la promotion, qui, évidemment, vous n'en avez absolument pas besoin, plus du tout besoin depuis des années. Et vous avez été, pendant très longtemps, le meilleur invité des plateaux télé, peut-être avec Édouard Baird et Benoît Poelvoorde.
Poelvoorde,
oui,
aussi.
Voilà. Très, très capable d'improvisation.
Oui, je vais vous dire le quatrième, il va arriver.
Bon, mais à un moment, on a senti que vous en aviez marre. Vous en aviez marre d'être invité pour faire le show
télé. Ça te condamne à la caricature hystérique, puisque tu ne peux pas vivre de silence, tu ne peux pas vivre de désarroi en télévision. Même là, si je vous en fais des trop longs, même à Radio Classique, Bec Bédé a une légère anxiété. Si
non.
D'un coup,
non,
mais disons que c'est pour ça que c'est merveilleux de faire la radio, et particulièrement Radio Classique, avec qui j'ai un lien particulier.
Oui. Vous avez été ici l'année dernière.
Voilà, et ça a été grâce à Monsieur Darnoncourt une merveille. Mais comment vous dire, j'étais très malheureux quand je sortais, parce que d'abord ça fait de toi une image hystérique, parce que les gens croient que t'es un personnage, un histrion, et je fais tout. Et c'est Hugo qu'en est l'incarnation pour dire je ne suis pas un histrion, moi je suis un interprète, je suis pas la caricature des trucs télé. Alors j'ai été sauvé par une chose, c'est que ça n'existe plus. Il y a plus du tout Ardisson qui avec tous ses défauts était le vrai grand animateur. Il n'y avait plus Pollack, il n'y a plus eu Marc Fogiel dans où j'ai fait un numéro sur l'orange qui a été vu 3 millions de fois, où j'ai déliré sur qui a volé l'orange. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, ça a duré 10 minutes. Il n'y a plus de ce qu'ils appellent en franc anglais du talk, enfin en anglais du talk show.
Oh, il y a quand même, il y a Quotidien, il y a.
Non, Quotidien, c'est à vous. T'es pas obligatoire. Oh non, c'est à vous, ils sont bienveillants, tranquilles. T'es pas. Non, mais moi, je vous parle des grandes
soirées.
On
se mettait en danger, quoi. Oui,
on se mettait en danger. Bah,
là où vous étiez le meilleur, c'était chez Pivot.
Alors là, Pivot,
parce que c'était
en direct. On se mettait en danger, mais on avait quand même la bienveillance de Bernard Pivot. Non, le grand danger, c'était Ardisson, c'était Ruquier, c'était On n'est pas couché. Là, ça des soirées merveilleuses avec un jeune humoriste qui a insulté Doc Gynéco, et ses partis sont insultés. Il y avait Roland Dumas, Pollack qui a dit mais ça, un homme de gauche. Bon, tout ça, c'était heureusement, on est libéré. Et d'ailleurs, je n'irai plus surtout.
Oui. Est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui se lancerait dans les lectures publiques, ce qui est mon cas, je fais un petit peu au théâtre Édouard VII.
Très bonne promo en loose day, très très bonne promo en loose day.
Pas mal, hein.
Oui. Ouais. C'est l'acte le plus dur à dire. Regardez, par exemple, je vous dis n'importe quoi qui me vient à l'esprit. Il raconte son installation à Jersey, Victor Hugo. Il y a une douzaine d'années, dans une île voisine des côtes de la France, une maison d'aspect mélancolique en toute saison devenait particulièrement sombre à cause de l'hiver qui commençait.
c'est beaucoup de travail.
Oui, oui.
Pour phraser.
Pour rester calme.
Et puis phraser, oui, oui. Et que ça leur parvienne.
Oui. Alors, la mise en scène est d'Emmanuel Guérassino, qui est derrière la vitre, qui nous regarde. C'est une mise en scène très sobre. Une table, un fauteuil,
oui.
Et la symphonie pastorale. À un moment, il y a
et c'est surtout un regard aussi, parce que oui. Sans regard, tu peux pas travailler.
J'ai un jeu dans cette émission qui s'appelle « Devine tes citations ».
D'accord.
Alors Fabrice, je vais vous dire des phrases que vous avez écrites ou prononcées dans vos films, et vous devez me dire à quel endroit vous avez écrit ça.
Et après, je pourrais aller dans le Burger Quiz. J'ai toujours très peur de ces émissions parce que je suis très mauvais en citation et en culture générale. Alors, on va essayer, allez-y.
Alors, il n'y a pas de bourgeois sans dîner, et il n'y a rien de plus accablant que des dîners où on vous demande si vous avez lu le dernier Houellebecq.
Impossible de vous répondre.
Vous avez écrit ça dans Comédie Française en 2016.
D'accord. Oui.
Et vous, d'ailleurs, je pense que vous devriez continuer d'écrire. Parce que,
J'ai une phrase très jolie de Cioran. Quand quelqu'un me demande de vous préparer quelque chose, j'ai envie de lui mettre mon poing sur la gueule. Est-ce que j'ai une tête à préparer quelque chose? Allez-y.
Alors, encore une. J'avais un besoin immense d'être aimé et je m'effondrais dès qu'on ne m'aimait plus.
Bon, ça a dû être dit par, très souvent. Dans la Comédie Française aussi.
Exactement, c'est aussi dans Comédie Française. De toute façon, vous n'avez écrit qu'un seul livre, donc ça va être un peu facile à deviner.
D'accord.
Mais est-ce que vous êtes toujours aussi fragile par rapport à ce besoin d'être aimé?
Un peu moins.
Ah, c'est bien.
Un très léger progrès.
Après combien d'années de psychanalyse?
44.
Voilà, 44.
Comme dirait Woody Allen, ça va un tout petit peu mieux.
Oui. Alors, cette fois, c'est un dialogue. Vous ne voulez pas essayer? Essayez quoi? De vous taire un peu. Allez hop, une minute.
La discrète de Christian Vincent.
La discrète, bravo. La discrète, c'était un dialogue avec Judith Henry.
Merveilleux Christian Vincent, merveilleux Judith Henry, merveilleux film qui a tout bouleversé dans ma vie.
Oui. C'était votre premier
succès.
Blockbuster. Oui.
Ouais, ouais.
Et c'est aussi votre recherche au cinéma, pas seulement sur scène, cette quête de silence, de sobriété, ce qu'on appelle la stone face. Vous savez, Ryan Gosling dans Drive, le visage qui bouge pas.
Oui.
Vous le faites maintenant au cinéma de plus en plus.
Oui, parce qu'on m'avait caricaturé comme un personnage brillant, verbeux, bavard. Puis après, il y a plein de films qui sont sortis, puis ils se sont dit « Ah bon, il est un peu humain, ce gars-là
» Autre citation. « J'ai envie de baiser !» Vous êtes
Claude
au courant
Lelouch avec Francis Huster et Alexandra Martinez.
Bon, c'était un peu facile.
J'ai les pommes... Oui, non,
j'ai quand même un petit peu envie de dire la suite de la citation.
J'ai les pommes de terre au fond du sac. C'est un truc comme ça, non?
Oui, j'ai les pommes de, j'ai les pommes de terre au fond du sac.
On est chez Madame de Salle, hein?
Non. Il faut le sucer. Vous êtes au courant de l'échangisme? Voilà, c'est dans tout oui, ça pour oui. ça, de Claude Lelouch, 93.
Césarisé, grâce
oui.
à Claude Lelouch.
Oui, bien
c'était
sûr.
Une belle rencontre, Claude Lelouch.
Bien sûr. Grand cinéaste. Qui nous écoute d'ailleurs. Alors, encore une phrase. Elle cache son jeu, la rue Custine, mais elle sait qu'elle va devenir la rue Caulaincourt.
Alors ça, c'est Comédie Française.
Comédie Française.
Ouais, si j'étais fier d'un truc, c'est de ça.
Mais j'aime beaucoup cette phrase.
Bah,
voyez
dis donc.
Oui, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très célinienne, justement.
Bah oui. Elle cache son jeu, la rue Custine,
oui.
alors qu'elle sait qu'elle va devenir oui. la rue Caulaincourt.
Eh
bien oui, parce
c'est
que la rue Caulaincourt, c'est la bourgeoisie, et Custine, on est lié encore à Barbès.
Oui, c'est ça. Et on avance vers
la bourgeoisie.
L'endroit où vous avez vécu toute votre vie. Hein,
rue Custine,
ouais.
en bas, rue Ramey.
Ouais. Dernière phrase. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé.
Ça, c'est l'agenouillement pour l'éternité. C'est un monsieur Trissotin. C'est lui qui, dans ses vers, vous a tympanisé, dit ça aux femmes. Tout ce qu'il dit sont des billes vesées. C'est bien, mais c'est pas génial. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé. Le génie, c'est l'avant-dernière.
Oui, oui,
on
oui.
cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé.
C'est Molière dans Les Femmes Savantes, oui. Alors, votre troisième choix musical, Fabrice Luchini, c'est Ludwig van Beethoven, sonate pour piano numéro 12, dite Marche funèbre, avec Alfred Brendel au piano en 1977.
Ça, c'est comment ça se termine, mon spectacle?
Oui.
Oui, ben c'est grâce à Monsieur Darnoncourt.
Superbe choix, Fabrice Lucchini, vous avez du goût, vous êtes un mélomane.
J'ai été aidé par Radio Classique.
Mais dans le spectacle sur Victor Hugo, vous diffusez la symphonie pastorale, un moment de Beethoven.
Oui, au moment où Hugo dit « Vous ne croyez pas à l'âme, alors écoutez Beethoven ».
Alors, je voudrais vérifier une information sur vous, parce que donc vous êtes une sorte de poulebeau, de titi parisien de Montmartre, vous avez grandi à Château-Rouge, peut-être d'où votre passion pour Céline, qui habitait par là aussi.
Qui habitait beaucoup plus haut, habitait à Nugino. Oui. Moi j'habitais passage Cotin, c'est-à-dire, bon, allez-y.
Mais alors, l'anecdote que je veux vérifier, parce qu'il y a deux versions. Oui. Il y a Labro vous a découvert dans un salon de coiffure parce que vous lui aviez
non, non.
C'est pas ça.
Non, Labro, on me demande, comme j'avais qu'une passion, j'étais pas un dingue des bigoudis ni des brochings, même si j'ai adoré coiffer les plus belles femmes de Marlène Jobert à Chantal Poupeau, de Chantal Poupeau à Sylvie Vartan, mais j'étais le passeur d'épingles. Hein, on n'accédait pas à la brosse comme ça. Il a fallu attendre 10 ans pour que j'aie le droit au peigne et à la brosse. Mais j'étais coiffeur et j'allais en boîte de nuit. Et comme j'étais fou de James Brown, que j'étais fou de tout ce qui était le rhythm and blues, j'ai, par mimétisme comédien, comme dirait Valérie, par mimicrie, j'ai observé tous les génies dans les boîtes de nuit de Stalingrad où il y avait des blacks qui étaient de pur génie. C'est peut-être un lieu commun, mais enfin, le pauvre blanc qui essayait de danser à côté d'eux avait un ringard et on ne peut pas vous mimer. Mais d'habitude, quand les blancs essayent de danser, sur James Brown, ils font des choses absurdes, alors que moi j'ai vu les mecs qui dansaient comme James Brown et comme Michael Jackson. Oui. Alors regardez une conne qui fait ses doigts en l'air pour danser, puis regardez Michael Jackson, vous allez voir qu'il y a un déficit à un moment. Donc j'étais fou de cette musique-là, j'ai beaucoup observé et j'ai fait croire que j'étais un bon danseur. Et ça m'a valu quelques succès féminins, pas nombreux, mais quand même conséquents. Et adorant James Brown, j'ai observé comme un fou. Et on m'a demandé d'aller ouvrir une boîte de nuit à Angoulême. J'ai été ouvert cette boîte de nuit à Angoulême. Et là, Labro était là, m'a invité à boire un café. Et je lui ai posé toutes les questions. Et je me suis retrouvé dans son film.
Le film s'appelait Tout peut arriver en 69.
Et après, Pierre Coquerel a parlé de moi à Eric Rambert.
Oui, mais quand même. Alors, elle est fausse. C'est l'anecdote que j'ai entendue, elle est fausse. Que vous conseillez à Labro de cirer les semelles de ses chaussures.
Ah, elle n'est pas fausse. C'est que la première fois que je l'ai vu, j'étais un dandy, enfin j'espérais être un petit dandy, j'avais des Weston, je mettais tous mes pourboires dans les Weston, et la grande mode c'était de cirer ses chaussures en dessous comme Vittorio Tzica, tu sais, les grandes élégances, c'est de cirer la partie entre la semelle et le talon, et le très grand dandy à l'époque, on achetait des Weston et cirait la pompe en dessous et au-dessus, et j'ai été lui dire le summum du chic, j'avais 17 ans hein, c'est de cirer ses chaussures sûr comme Vittorio Tzica.
Je signale à nos auditeurs que Philippe Labro sera mon invité dans 3 semaines. Vous avez un peu galéré dans le cinéma, parce que ce film, Labro, c'est 69. Après, il y a Le Genou de Claire l'année suivante.
Oui, mais j'ai galéré jusqu'à 85, Les Nuits de la Pleine Lune.
Les Nuits de la Pleine Lune.
Et Les Nuits de la Pleine Lune, il n'y a eu aucun projet, donc ça n'a pas marché. Mais j'ai eu la chance d'avoir rencontré mon prof de théâtre et j'avais emmagasiné énormément de besoin de dire des grands auteurs et j'ai joué de 85 à 90, des génies. J'ai joué Céline, j'ai joué Guitry, alors j'ai joué Bernstein, qui n'est pas un génie, mais qui est quand même un auteur remarquable. Et puis après, est arrivé le miracle, 90. À partir de là, les choses ont été bien. Mais croyez-moi, de 69, 70 à 85, ils ne voulaient même pas me voir. Les gens disaient, j'ai pas envie de le voir. Mais on dirait un homo, t'as vu son phrasé. alors on disait, mais oui, mais dans Perceval. Ben justement, on l'a vu dans Perceval.
Non, mais c'est pour dire aux gens qui nous écoutent, qui peut-être rêvent de faire du cinéma ou du théâtre, que c'était pas facile, c'était pas tombé tout cru.
Facile. Non, voilà. Serge Rousseau m'avait dit, je vais te dire la vérité, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas sexué. Et il m'avait dit ça en me parlant de ses auteurs à lui, de ses comédiens à lui. Je ne vais pas avoir la cruauté de vous dire lesquels étaient cités.
Alors, au théâtre, vous avez joué des grandes pièces de théâtre avec d'autres acteurs sur scène.
Il y avait Yasmina Reza,
Jules avec Romain, Art, 84, avec Pierre Arditi et Pierre Vanek. Il y a eu Knock de Jules Romain, 2002. Et au fond, vous êtes seul en scène depuis plus de 20 ans.
Oui.
Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez plus envie de...
Je trouverai jamais, c'est comme vous,
j'avais pratiqué les drogues dures. le shit, moi je fume plus, hein, j'ai un cœur qui va pas bien. Mais le shit c'est sympa, mais il paraît que quand tu goûtes à autre chose, c'est quand même violent. Moi je ne retrouverai jamais ce que vous avez vécu hier, la suspension à Bose. Ouais. Il n'y a pas d'auteurs qui peuvent produire sur une salle ces 15 minutes de suspension qui te donne l'impression d'une appartenance aux hommes.
Qu'est-ce qui s'est passé hier soir à ce moment-là? Parce que j'ai senti que vous étiez particulièrement agité.
Oui. Oui, parce que ça avait, il y avait eu ce petit incident sur la toux, mais maintenant je vais essayer d'être plus gentil, mais je resterai quand même de mauvais caractère. Mais je ferai plus gentil, je leur dirai, soyez gentil, ne me forcez pas à hurler. Mais bah, il s'est passé un miracle. C'est pas tous les soirs. Alors, tout y amène à ce miracle. Vous savez, quand vous avez un Peggy qui vous emmène pendant 7-8 minutes à expliquer pourquoi Bose, ça n'est pas du talent, c'est de la grâce. Et il le définit, et je cite Brassens d'ailleurs, le talent sans travail, disait Brassens, n'est qu'une sale manie. Vous savez, les gens emploient des mots, ils ne savent pas du tout. Talent, ça ne veut rien dire.
Ça veut dire savoir-faire, en fait.
Eh ben, le savoir-faire, c'est bien. Mais lui, évidemment, il a ambitionné autre chose. Et il reconnaît qu'Hugo a plein de moments de savoir-faire. Sauf que là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé au-delà. Et il donne comme référence, c'est là où on voit le niveau de culture des gens en 1913 et le nôtre. Peggy dit, ce qu'il y a d'unique, de ce qu'il y a d'absolument génial chez Corneille, c'est cette incapacité de tomber juste dès qu'il n'était pas dans le génie. En gros, il dit que Corneille, qui est le plus grand tragique, il est tragique parce que dès qu'il n'est pas dans le génie, ça tape à côté. Alors qu'Hugo peut ne pas être dans le génie, ne pas taper à côté parce qu'il est un très grand talent. Mais le talent ne vaut rien quand il n'est pas happé par le génie. Ah oui, là on tape haut. Ah
oui,
hein.
Oui, bah oui, et c'est d'ailleurs exactement une très bonne transition avec Miles Davis, puisque voilà un exemple de quelqu'un qui avait du génie.
Oui. Et puis John Coltrane.
Oui,
pourquoi le génie? Oui. Parce qu'un grand musicien m'avait dit « sa tête est accrochée aux dieux ». Et j'adore ce disque.
C'est tu Blue and Green, dans extrait de l'album Kind of Blue. Thank you. C'était Miles Davis avec Bill Evans au piano, John Coltrane au saxophone, Jimmy Cobb à la batterie et Paul Chambers à la contrebasse. Je suis toujours avec Fabrice Luchini sur Radio Classique, dans Conversation chez La Pérouse, pour parler de son spectacle sur Victor Hugo. Le plus beau vers de Beaux Endormis, selon moi, c'est le plus simple. Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand.
Brutes songeaient et Beaux dormaient. Ouais. L'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Ur et dans Jérimadée.
Ça, c'est magnifique aussi.
Les astres émaillaient, je suis parti trop haut. Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge, la terre où l'homme errait sous la tente, inquiet des empreintes de pieds de géant, était mouillée encore et molle du déluge. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Boaz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Or, la porte du ciel s'étant entrebâillée, au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Boaz vit un chêne qui sortit de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une race y montait comme une longue chaîne. Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu, et Boaz murmurait avec la voix de l'âme. Comment se pourrait-il que de moi ceci vint? Le chiffre de mes ans a passé 80, et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre, et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, la demi-vivante et moi mort à demi, une race naîtrait de moi. Comment le croire? Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants? Quand on est jeune, on a des matins triomphants, le jour sort de la nuit comme d'une victoire. Je vais plus vite que d'habitude, hein. Le jour sort de la nuit comme d'une victoire, mes vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau. Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe, et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau, ainsi parlait Boaz, dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé. Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et Boaz ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée aux pieds de Boaz, le sein nu, espérant ne sait quel rayon inconnu quand viendrait du réveil la lumière subite. Boaz ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Là, c'est du chef-d'œuvre pur. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèles. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle.
C'était Fabrice Luchini. Et Fabrice Luchini, au nom de la France et de la langue française, je vous dis merci pour toutes ces années de travail et de transmission. Merci.
C'est moi qui vous remercie. Merci à Radio Classique.
Merci à toute l'équipe. Philippe Gault à la production, Mathieu Roque-Lago à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant sur Radio Classique, vous avez rendez-vous avec le concert du samedi soir au programme Sibelius et Beethoven, interprété par l'Orchestre National de Lille, dirigé par Alexandre Bloch avec la pianiste Marie-Ange Gouchy. Vive le week-end et à la semaine prochaine.
Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé en partenariat avec Le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.